Dans ce mag, on vous invite aujourd'hui à la 6e édition du Salon des artisans du fait et de la terre. C'est ce week-end, c'est du côté de Château de Nègrepelisse, avec beaucoup de couteliers et de céramistes, en particulier la fête du feu et de la terre, dans ces deux disciplines que vont nous détailler la céramiste et sculptrice Adèle Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Rénal, coutelier. Bonjour aussi.
Bonjour.
Alors, c'est la 6e édition de cette manifestation. C'est sur l'esplanade du château et dans le château avec tout un tas de démonstrations, un marché. Vous avez réussi à fédérer de très nombreux artisans. Est-ce qu'on peut commencer par faire le lien entre le feu, la terre, le métal ?
Oui, le lieu, enfin, le lien, de toute façon, il est vite fait. Eux se servent de la terre et du fégola. Et puis, la manipulent beaucoup mieux que nous. De toute façon, parce que bon, nous, la terre, c'est les fours, c'est les forges, et tout ça, fait, c'est le matériel qui nous sert à cuire, hein, enfin à cuire ou à fondre. Hein. Et voilà, et puis eux font, avec ces terres-là, comme Adèle, de très belles sculptures, de poterie, et puis autres, quoi. Et puis après, avec les travaux du feu, ils arrivent à faire des choses quand même relativement admirables, quoi.
Le lien entre tout nos métiers, c'était vraiment le feu qui nous regroupait.
Et la terre, alors, parce que vous la sculptez, vous, et puis parce que les métalleux, là, vous la mettez dans le feu et vous en récupérez les métaux. Il y aura justement.
Ah non, on récupère les métaux du comanéir du minerai. La terre, ça sert pour faire les parois de four, les parois de comment dire, le réfractaire.
Et alors, les minerais, vous les trouvez où ?
Dans les mines.
Bah, sous la terre, excusez-moi.
C'est un caillou. C'est un caillou.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme nombreuses démonstrations là ce week-end ?
Alors normalement ce week-end, c'est pas normalement, c'est que ce week-end nous verrons une démonstration de raku avec Sacha Martinez. Donc une technique japonaise de cuisson qui est très très intéressante. Nous aurons un tourneur qui nous montrera ce qu'il sait faire. Après, nous avons Thierry et toute son équipe qui vont nous faire un bas fourneau. Ça, je pense que Thierry l'expliquera beaucoup mieux que moi.
Mais là, oui, on va faire une réduction donc, avec un four qui est un hybride un petit peu entre les fours japonais et les fours européens qu'on avait ou fait qu'on faisait l'âge du fer ici à l'époque des Celtes. Après, il y aura Gérard Ramazio.
C'est-à-dire, c'est quoi un bas fourneau ? C'est quoi les différentes techniques ? Je ne comprends pas.
Un bas fourneau, c'est une cuve. Enfin, là, nous, on va le faire dans une cuve à métal. Bon, fait, au niveau de l'âge du fer, des Celtes, ils construisaient carrément le four en terre. Enfin, c'est monté en terre crue. C'est-à-dire quasiment avec la terre du jardin, quoi. Mais fait, bon, il fait quand même une certaine teneur en argile, mais avec des terres, par contre, qui soient capables de tenir à des hautes températures. Hein. Et surtout, indemne de fer. C'est la différence qu'il y a un petit peu avec tout ce qui est poterie et céramique. Hein. Où c'est qu'il peut avoir des terres quoi, qui montent de très haut en température, mais qui peuvent contenir du fer. Quoi. Le problème, c'est que nous, si on a du fer, on fait de l'oxyde de fer dans la terre, le truc qui va se passer, c'est que quand on réduit le minerai, on réduit aussi l'oxyde de fer qu'il y a dans l'argile. Donc on fond toutes les argiles. Quoi. Parce que là-bas, on a démonté autour de 1400 degrés. Quoi.
Donc le four est en argile, mais en argile qui n'est pas cuite. Et donc quand vous mettez le feu sous le four d'argile, bah vous prenez le risque de faire s'enflammer le four.
Non, c'est la terre crue, donc la terre va se cuire à l'intérieur. Après, bon, les buses sont cuites parce qu'il faut qu'elles arrivent ses avantages. Là, c'est Adèle qui nous a cuit les buses. Là, c'est des terres chamottées, c'est les mêmes qui se servent pour faire...
C'est quoi une buse ? C'est quoi une terre chamottée ?
Alors la buse, c'est un tube... qui amène de l'air dans le four. Voilà, la terre chamottée, c'est la même chose qui se servent pour la poterie et compagnie, c'est-à-dire pour monter le taux. Enfin, nous, on va parler réfractaire, le taux de tenue de la terre. Hein. C'est-à-dire, on cuit la terre une fois, on la broie, on la remélange avec la terre crue, on recuit, on rebroille, on remélange, et à chaque fois on appelle ça une chamotte. À chaque fois qu'on cuit, qu'on mélange, et on arrive à monter si une terre qui tient, on va dire, à 1000 degrés, en faisant une chamotte, on va la monter à 1200, en faisant une chamotte, on va la monter à 1300, et voilà, ainsi de suite. Quand elle chamontant, on remonte le taux de fusion de la terre. Quoi.
Et donc vous avez préparé tout ce chamotage pour monter donc un four dans la cour du château ?
Voilà, tout est prêt à être monté pour le salon ce week-end.
Ça ressemble à quoi concrètement ? Parce que le feu vient d'en dessous, vous mettez des bûches en dessous là ?
Ben, y a, là sur, sur ce four, là, il y a quatre muses qui rentrent dans un creuset. C'est le creuset, c'est-à-dire c'est le fond de cuve, quoi. Si on peut dire, quoi. Ou qui va recevoir le métal. Et après, il y a une cheminée, et, on met le métal, et le minerai et le charbon en haut de la cheminée, et puis il commence à travailler en haut, et puis s'il descend, après il rentre enfin.
En quoi? Parce qu'il fond, il descend.
Voilà, il descend en fusion après. Enfin, après, c'est pas une fusion comme fait l'industrie au niveau des fontes et compagnie. Là, c'est des grains, c'est des gouttelettes de métal qui viennent s'agglutiner les unes aux autres, hein, pour former une loupe.
La loupe, c'est donc le métal.
Le maçon de métal.
Et donc, vous devez attendre que ces petites gouttes descendent tout le long de la cheminée de
terre
chamottée.
Oui, entre les graines de charbon. Alors là, on a sur les buses, on a une lunette, enfin des lunettes. D'ailleurs, l'air rentre dans ces buses, et à côté, là, on met un verre, là, comme pour souder avec les chalumeaux, là, un verre teinté, et on voit ce qui se passe à l'intérieur du four, quoi. Alors, c'est marrant, parce que justement, entre les graines de charbon qui sont incandescentes, quoi, on voit ces petites gouttelettes qui tombent, là, on dirait des petits verres qui glissent entre les graines de charbon pour venir s'agglutiner les uns aux autres.
Mmh. Et il vient d'où le minerai?
Le minerai vient du Tarn, il vient de Mordeaux-la-Vaissonnière.
Et qu'est-ce que vous en faites après du four qui trône au milieu du château?
Ben, c'est des fours éphémères. Donc on casse et on recommence la prochaine fois. c'est des fours éphémères, ça.
Donc un gros four tout au long, j'imagine que ça flambe toute la journée, ça, pour faire...
Ben, logiquement, on va l'allumer samedi matin vers 5-6 heures du matin pour commencer la préchauffe et compagnie, quoi, et on va commencer à le charger vers 8 heures du matin pour l'ouvrir vers, je pense, 5h à 5h30 samedi soir. Et si tout fonctionne bien, encore, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres qui peuvent se mettre un petit peu en travers autour, quoi. Dans la logique, on est parti pour brûler une centaine de kilos de minerai et sortir ce métal qui va faire entre 40 et 50 kilos, quoi.
L'an dernier, je crois qu'avec ce métal a été forgé quelque chose.
L'an dernier, c'était Dominique Bargel qui faisait les réductions. Cette année, bon, a priori, il a un problème de santé, donc il ne pourrait pas être des nôtres. Alors, c'est pas le métal qu'il avait produit là sur place, quoi, mais c'est du métal qu'il avait produit de même manière chez lui, quoi. Donc, pour arriver à tirer quelque chose de là-dedans, quoi, il y a une grosse préparation de ce métal qu'on appelle l'affinage. Et en démonstration, c'est infaisable, quoi. Ça demande trop de paramètres, des matériels, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc il arrivait déjà avec un lingot de fer qui était déjà affiné, prêt à être forgé, et il forgeait un sabre qu'il trempait sur place, quoi.
Ah oui, le trempage de sabre. Alors j'ai appris l'an dernier que c'était dans l'eau ou dans l'huile, et que le sabre recourbé, c'était quand on le plongeait justement comme ça. Mais cette année, il n'y aura pas ça.
Il n'y aura pas ça.
Il y
aura de la forge. Il y a un autre copain, Gérard Mazura, qui lui va faire, la démonstration de Damas, c'est-à-dire tout ce qui est pliage et au niveau de feuilletage d'acier, de la forge. Voilà, il va être à se relier plusieurs là derrière les forges. La métallurgie, c'est la fabrication de métal. Après, la coutellerie, c'est la forge.
La forge, donc, c'est quand on a une enclume, qu'on tape dessus.
Voilà,
qu'on
tape dessus avec du fer chaud.
Mais vous pouvez faire autre chose que les couteaux.
Ah oui, après il y a la ferronnerie, oui, ça c'est encore un autre métier. On n'a pas la chance d'avoir, il devait y avoir un maréchal ferrant qui apparemment ne viendra pas, mais comme ça. Enfin, après au niveau de la forge, ça regroupe énormément de métiers, entre la coutellerie, la taillanderie, la ferronnerie, la maréchalerie, il y a quand même beaucoup de choses au niveau de la forge, oui. Ils ont les mêmes choses au niveau de la terre aussi, entre la céramique, Odelle va vous expliquer, la poterie,
oui,
tout ça, il y a beaucoup de choses chez eux aussi. Là.
Justement, pour ce salon donc, des artisans du feu et de la terre, on a beaucoup parlé couteau et métal, toute la partie terre nous sera détaillée par Adèle juste après la musique dans ce mag, ne bougeons pas. De retour dans ce mag, on vous donne un rendez-vous pour ce week-end du côté de Nègrepelisse à propos de terre, de métal et de feu. De nombreux couteliers céramistes seront présents autour du château, dans la cour. On aura aussi de très nombreux créateurs, en plus des démonstrations de forge et de métallurgie dont on vient de parler avec Thierry Rénal, coutelier. On a aussi Adèle Lagarde qui est au bout du fil de téléphone. Vous êtes sculptrice, vous êtes céramiste et vous parlez là. Vous allez nous parler de toute la partie terre. Vous avez mentionné le raccou. En fait, je ne suis même pas sûre de savoir qu'est-ce que c'est.
Alors le raku, c'est une technique, en fait, une technique de travail qui nous vient du Japon, où une pièce est déjà cuite une première fois au four électrique, en général c'est au four électrique, sur 24 heures. Donc il y a 12 heures de montée, 12 heures de descente, sachant que les pièces sont à peu près cuites une première fois à 1100 degrés, voire 900 degrés. De là, la terre a subi une transformation qui l'a rendue à l'état vraiment de ce qu'on appelait la céramique. Une fois que notre pièce est cuite une première fois, elle va être cuite une deuxième fois. Seulement, au lieu de la cuire sur 24 heures, 12 heures de montée, 12 heures de descente, on va la monter en une heure et demie maximum, à 1000 degrés. Une fois que la pièce qui aura été émaillée en amont, arrive à ces 1000 degrés, on ouvre le four. Donc, vous imaginez, enfin, on peut, si vous voulez vraiment le voir par vous-même, il faudrait venir. Mais on pourrait imaginer, voilà, on ouvre un four, l'émail, elle est incandescente. Elle est vraiment, elle est à 1000 degrés. Donc, on va sortir nos pièces pour les mettre à l'air libre. Donc là, il y a un premier choc thermique qui se passe. Ce qui fait que l'émail va se figer instantanément. Elle va passer de 1000 degrés à la température extérieure, 20, 25, voilà, la température du jour. Donc, premier choc thermique, l'émail se fige. Mais il y a un tel choc thermique que ça va se craqueler. Et dès qu'on entend l'émail qui se craquelle, qui chante, on va prendre nos pièces, et on va les mettre dans des lessiveuses, dans des cocottes, enfin dans des récipients métalliques où on aura mis avant des journaux, enfin tout ce qu'il faut comme combustible pour que ça s'enflamme. Et dès que le feu prend, on étouffe vraiment notre feu et de là tout le carbone qui va rester, qui va se dégager, va s'emprisonner dans chaque craquelure qui aura été faite juste auparavant, juste vraiment dans la première phase. De là, on ouvre, on sort nos pièces. Et si on veut s'amuser et aller un petit peu plus loin, on peut encore faire un autre choc thermique en les plongeant dans l'eau. Donc, ce qui donne des résultats complètement improbables, complètement inattendus. Et c'est surtout que là, on ne contrôle absolument pas le résultat. Mmh. Donc, c'est des grandes surprises. À chaque fois, c'est des très, très grandes surprises. C'est très beau à voir faire. Vraiment, c'est très joli. Il y a quelque chose de magique, parce que là, vraiment, on assiste à la transformation. La transformation, et puis on voit un petit peu ce que peut ressembler le verre à l'état liquide, en fait. Hein. Donc, c'est très chouette. Ces deux artistes, Sacha et sa compagne, étaient déjà venus l'année dernière et ils nous avaient fait plusieurs démonstrations. Vraiment, j'encourage vraiment tout le monde à venir voir ce spectacle, parce que c'est assez spectaculaire à voir faire.
Le raku, donc il y en aura tout au long du week-end ?
Oui. Elles vont faire plusieurs démonstrations. Et comme je le spécifiais aussi tout à l'heure, donc nous avons un potier qui va nous faire du tournage. C'est Super Angelino, un monsieur qui est absolument adorable.
Et ouais, ça a l'air tellement facile à faire, sauf quand on essaye.
Oui, ça a l'air tellement facile à faire, mais c'est tellement un métier qui est très différent encore du mien. Parce oui. Que moi, je manipule aussi la terre, mais alors moi, c'est de la sculpture. Donc, c'est ce qui est marrant, c'est que finalement, on peut allier le raku avec l'utilitaire et le décoratif. Et quoique. Alors que le potier, là, on est vraiment dans l'utilitaire. On va être le potier, il va vraiment créer des récipients, des bols, des saladiers, des assiettes, nos services, hein, des tasses. Et alors que moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis vraiment dans la décoration, donc dans le non-utilitaire. Non-utilitaire, ce qui est encore un tout autre domaine de la céramique.
Et vous faites-vous des sculptures humaines, mais pas que ?
Oui, mais pas que. Alors, je fais principalement des bustes. Je travaille sur commande. Je suis assez branchée par rapport à la mythologie gréco-romaine, qui reste vraiment mon domaine de prédilection. Mais après, voilà, je pratique aussi un petit peu de raku. J'essaye un petit peu d'aller dans plusieurs univers pour voir un petit peu justement comment se travaille la terre, Nous aurons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois cette année aussi Gradiela qui elle fait du Pitfire. Alors le Pitfire, on est encore dans quelque chose de fabuleux. Elle fait des feux de fosse. Donc c'est pareil, c'est une double cuisson. La pièce est cuite une première fois, pareil, à 1000 degrés. Mais elle peut aussi, hein, pour vraiment les purs et les durs, elle peut se cuire une seule fois. Mais je pense que Gradiela, j'espère que je ne dis pas de bêtises, fait une double cuisson. Donc une première cuisson classique. Et après, elle va faire une fosse dans la terre, à peu près 70 cm, où elle va momifier ses pièces dans différents ingrédients qui fait partie de ses petits secrets, les enfouir, et après elle va monter une sorte de bûcher qu'elle va faire brûler pendant de nombreuses heures jusqu'à atteindre un certain degré. Et ça peut durer 24 heures, 48 heures, ça peut même aller jusqu'à 72 heures. Moi, j'ai pu voir une démonstration et j'ai pu le faire moi-même à la maison, mais j'ai pas excédé les 24 heures parce que je suis trop trop curieuse. et quand le bûcher est vraiment, ça y est, tout est réduit en cendres et qu'on va découvrir les pièces, alors là, c'est en fonction des ingrédients qu'on se sera servi, et ben, il va y avoir des couleurs qui vont s'installer sur les pièces qui vont être incroyables, incroyables. C'est une pratique qui est pas mal utilisée en Angleterre, aux États-Unis. On voit beaucoup. En France, très peu. Et on a la chance justement d'avoir Gradiela parmi nous qui, elle, a des résultats incroyables. Incroyable.
En tout cas, quand on vous entend parler, on voit vraiment tous les deux là que vous êtes passionnés par vos domaines respectifs qui donc se rejoignent. Et vous avez invité plein de vos collègues qu'on va pouvoir rencontrer.
Oui,
on va avoir des démonstrations.
Il faut vraiment, il faut que je vous parle de ce verrier, monsieur Jürgen Schomara. Monsieur Jürgen Schomara, qui, pareil, nous fait vraiment le grand plaisir de venir nous rejoindre cette année, qui, là, vraiment, il fait un travail incroyable, incroyable, avec le verre, avec le verre. Donc, et après, on va avoir aussi Carole Tournier, qui fait de la peinture, qui travaille un petit peu le verre de manière différente de Jürgen. Donc vraiment, chaque artiste a sa petite patte. On aura la chance d'avoir un sculpteur sur bois aussi, qui travaille sur des troncs d'arbres, qui fait des tikis. On a Gaël qui se fait des lampes absolument dingues avec la récupération de pièces de moto. On a vraiment un panel d'artistes très très chouette.
Bijouterie aussi.
Bijouterie, il y a combien à peu près de producteurs,
oh là là,
de créateurs?
On a Lorraine qui fait la bijouterie. Ah non, mais vraiment, c'est pareil. Il faut. Ah, mais je vous assure, il faudrait plusieurs heures pour pouvoir énumérer.
Bah, tout un week-end, il faut venir.
Oui, vraiment, pour les mettre en avant, toutes ces personnes-là, parce que chacune mérite d'être vraiment mise en avant.
Ils sont combien à peu près? Combien à venir présenter leur création?
Alors, moi, de mon côté, je vais avoir à peu près une dizaine d'artistes.
Donc, côté terre?
Entre tout confondu, verre, fer, bois, entre 10 et 15, je dirais.
Oui, bah, je crois que sur le commun, je crois qu'il va y avoir une soixantaine d'artisans à peu près, quoi.
Donc ils seront sur l'esplanade, j'imagine, ou dans le château?
Les gens, qu'on représente avec Adèle, quoi, au niveau de cet artisanat-là, quoi, c'est à l'intérieur du château. Après, à l'extérieur, il y a d'autres choses, quoi, ça peut aller de pas mal de côtés sur la nourriture. Il y a d'autres artisans, bon, qui veulent rester là-bas. Ouais. Et, enfin, c'est un autre monde, quoi, de l'autre côté, quoi. Et qui font de très très bonnes, de très très bonnes choses aussi, quoi, hein, de toute façon. Hein.
Et puis, les restaurateurs qui vont aussi permettre de passer tout toute l'après-midi, toute la journée, ces deux journées, donc samedi et dimanche, à venir rencontrer tous ces artisans que vous avez invités, à venir voir aussi, à venir discuter. Parce que, en fait, là, ça fait 20 minutes qu'on parle et il faudrait deux jours de plus, quoi.
De toute façon, les gens, dont on fait partie nous aussi, quoi. On est là aussi pour présenter notre métier, que ce soit dans le pôle d'Adèle aussi, que finalement, moi. Bon, oui, ils sont davantage diversifiés parce qu'un fait de la poterie, l'autre fait des sculptures, l'autre, là, nous, on fait que des couteaux, mais on fait aucun les mêmes couteaux.
C'est
diversifié aussi, quoi, de toute façon, et chacun a son mot à dire.
Complètement. Chaque coutelier a vraiment sa patte, a vraiment sa manière de faire. C'est, Moi, j'ai vraiment découvert le métier de coutelier en rencontrant Thierry la première fois. Ça fait 3 ans et c'est incroyable, incroyable. Il n'y a pas un couteau qui se ressemble, il n'y a pas une façon de faire qui est pareille. C'est vraiment chapeau, hein. Et
Et
c'est
puis, c'est très impressionnant. Ça va taper sur des enclumes, ça va sentir le charbon, la fumée.
Non, non. Ça
Non?
sent pas le charbon chez nous.
Oh, pardon, ça sent
Non, non, on travaille là,
le gaz.
on travaille de manière empirique, quoi. C'est-à-dire que hormis Gérard, bon, qui lui va travailler le gaz, donc quelque part, ça sent pas forcément. Et après, par contre, moi, je travaille tout au charbon de commode, enfin, Bargel aussi, quoi. On travaille tout au charbon de bois. Pas de fossiles à la forge. Donc les odeurs qu'on avait à l'époque, avec la houille, l'anthracite et compagnie, ça, c'est un peu proscrit dans nos forges.
Eh bien, pour en savoir
Pas de
plus
poison.
et pour me contredire, il faudra venir samedi et dimanche au château de Nègrepelisse. On peut retrouver quelques infos en tapotant dans un moteur de recherche Fête du feu et de la terre. C'est votre 6e édition. Je crois que l'an dernier, vous avez attendu quelques centaines de personnes à peine.
Alors, d'exposants l'année dernière, on était à peu près une centaine. Cette année, nous avons pris parti de prendre moins de personnes pour essayer de privilégier que chacun ait vraiment de la place à sa disposition, pour vraiment voilà, prendre son espace et valoriser son espace et valoriser son travail. C'est pour ça qu'on a pris moins d'artistes, moins d'exposants cette année. Mais après, au niveau visiteurs, on a atteint quand même bien plus de 1000 personnes, je pense, l'année dernière, hein.
Ben, la dernière, oui, on a fait moins que les autres années parce qu'il y a eu le
Il a fait
canicule,
très chaud.
voilà, qui l'a fait très très chaud. Mais sinon, en principe, on a moisi entre 1500 et 2000 personnes
Ah
sur
oui.
le site, quoi.
Bon, ben voilà, faut venir avec sa gourde et puis profiter de ce qui nous sera proposé en termes de boissons grâce donc à l'association du feu et de la terre. La fête du feu et de la terre, c'est ce samedi. On vivra là-bas, tous les deux. Adèle Lagarde, je rappelle que vous êtes céramiste et sculptrice, Thierry Rinal, coutelier. Un grand merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci, merci Lisa.
Et merci à tous de nous avoir suivis dans ce mag qui sera rediffusé à 18h et à 21h. Comme d'habitude, vous pourrez le réentendre en podcast sur notre site cfmradio.fr. Juste après les infos, la suite, c'est depuis CFM Montauban et c'est le mag de Rémi.